Avril 1911, c'est une petite fille. Le docteur Julius Kahn tournait en rond. Le rez-de-chaussée empestait la fumée âcre des cigares qu'il mâchonnait sans relâche depuis des heures. Anna avait refusé son assistance. Il ne manquerait plus que ça. Que son mari qui l'adulait, la voit, corps en sueur, cheveux collés aux tempes, joues rouges d'effort, visage crispé, bouche déformée par la douleur, pas question. C'était son combat. Et puis la présence du mari complique toujours les choses. Anna luttait pour donner la vie dans une chambre du premier étage sous l'autorité d'un confrère de Julius et d'une infirmière. La grossesse était arrivée à son terme sans la moindre alerte. Anna se portait bien, le bébé aussi, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Même l'âge un peu avancé de la future mère n'était pas un problème, puisqu'il ne s'agissait pas d'un premier accouchement. Pourtant, Julius, soucieux, arpentait les pièces du bas de la villa, de la salle à manger à son bureau au grand salon en passant par le petit, une pause dans la réception au pied de l'escalier qui menait aux chambres, et retour. Lassé de ses déambulations, il se dirigea vers le guéridon Biedermeier qu'il adorait, un cadeau datant de son mariage avec Anna. Il caressa avec délicatesse le plateau en merisier. Les années passaient, les temps se faisaient plus difficiles, mais les jolies choses restaient, immuables, belles. Il récupéra sur le meuble un vieux numéro de la revue Versacrum. C'était l'organe officiel de la sécession viennoise, créée en 1898 par son ami le peintre Max Kurzweil et Gustav Klimt, l'année même où ce dernier avait achevé le portrait sur lequel son regard s'arrêta un instant. Il datait de la période florale de la sécession viennoise. Assise au bord d'un fauteuil, Anna, en robe de mousseline blanche, le regardait et s'apprêtait à quitter son cadre doré pour le rejoindre. Quelle était belle, son épouse! Ce visage de Madone, rehaussé par une flamboyante chevelure blonde, ses lèvres pleines, ce nez droit, ses grands yeux limpides. Elle avait été, elle était toujours, l'une des plus belles femmes de Vienne. Julius se laissa choir dans un fauteuil pour feuilleter sa revue. Il en avait été un des fidèles abonnés jusqu'en décembre 1903, date de la fin de la parution. Deux couronnes pour 40 pages illustrées, ce n'était pas cher payé, se rappela-t-il avec nostalgie. Il essaya de se concentrer sur le numéro qu'il avait en main. C'était le 9e, daté d'octobre 1898. À l'occasion de la 6e exposition de la sécession, on y retraçait 1000 ans d'art japonais. Mais l'art nippon n'y put rien. Le docteur Kahn était avec Anna au premier étage de leur maison. « Mazel Tov, monsieur! Mazel Tov! C'est une petite fille! Elle est magnifique !» Les cris de joie de Théophila résonnèrent dans l'escalier qu'elle dévalait. Toute la tension des dernières heures s'évapora dans l'instant. Sans retenue, la domestique se jeta dans les bras de Julius qui la serra contre lui avec émotion. Au diable les conventions! Aujourd'hui était jour de fête. « J'ai compté 10 petits doigts, 10 petits orteils. Votre fille est parfaite, monsieur. Et Anna ?»« Tout s'est bien passé, madame se repose. » Julius reprit le contrôle de ses émotions. Il chargea Théophila de commander un bouquet de 36 roses blanches chez Ziegler, le fleuriste le plus cher de Vienne, ainsi qu'une grosse boîte de chocolat chez Dommel, la chocolaterie préférée d'Anna, celle de la famille impériale et de la cour, précisait-elle chaque fois qu'elle en rapportait un paquet, et il chargea Aloïs, son chauffeur, d'aller les récupérer. Puis il grimpa jusqu'à l'étage, changea de chemise et de gilet car il empestait le tabac et ne voulait pas incommoder Anna, et il frappa à la porte de la chambre de sa femme. C'était une petite fille vigoureuse. « Elle a vos yeux, très cher, » remarqua Julius. « Enfin, Julius, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que tous les nouveau-nés ont les yeux bleus. Il est bien trop tôt pour savoir de qui elle tient. » Le bébé se mit à geindre en crispant ses poings minuscules. Sa petite bouche rouge s'arrondit et elle commença à hurler. « Elle a faim !» laissa tomber Anna. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Julius lui tendit un mouchoir, mais le flot ne tarissait pas. « C'est le contre-coup !» s'excusa-t-elle. « Mais je suis si heureuse !» Ses paupières frémirent pour se fermer sur son épuisement. Julius se délesta du nourrisson dans les bras de Théophila. La nourrice recrutée grâce à ses bons soins sur les recommandations d'une voisine attendait dans la pièce voisine. Julius n'avait pas eu son mot à dire. C'était Alma. Ainsi en avait décidé Anna. En l'honneur d'Alma Mahler, artiste et figure féminine libre qu'elle admirait, et avec un H final, comme à son propre prénom. Julius était d'accord. Il était toujours d'accord avec les décisions de son épouse. Elle avait tenu à ce qu'il ne choisisse pas de prénom pour le bébé avant sa naissance. Cette naissance entourée de tant de craintes, d'angoisses, de précautions. Anna avait perdu un enfant, une première fille, une fausse couche à 5 mois de grossesse, 8 ans plus tôt. Le choc avait été sévère. Mais elle était jeune et sa vitalité avait repris le dessus. Lorsque son deuxième enfant, Oscar, né prématurément, était mort à 6 mois d'une scarlatine compliquée, d'une diphtérie, Anna avait sombré. Julius avait même, par période, craint pour la vie de son épouse. Il avait gardé en mémoire le cas Anna O, qui avait fait école dans le milieu médical près de 2 décennies plus tôt. Cette patiente du docteur Breuer avait été guérie de son hystérie au terme d'une cure psychanalytique, une première à l'époque. Les techniques avaient bien évolué depuis, et le docteur Freud, disciple et ami de Breuer, avait affiné la méthode de son mentor pour en faire l'essentiel de sa pratique et asseoir sa renommée. Ces 2 ouvrages, L'interprétation des rêves et Psychopathologie de la vie quotidienne, trônaient en bonne place dans la bibliothèque de Julius, qui s'était intéressé de près aux travaux de la Société viennoise de psychanalyse. Il avait insisté pour qu'Anna soit suivie par un thérapeute. Certes, elle n'était pas hystérique, mais ses sautes d'humeur, sa profonde mélancolie, ses brusques bouffées de joie, son mal-être permanent l'anéantissaient. Julius voulait l'amener, sans qu'elle en prenne ombrage, sans la braquer, dans le cabinet du célèbre médecin. S'il y avait la moindre chance de guérir Anna, au moins de la soulager, il ne pouvait, en tant que médecin, en tant que mari, la négliger. Anna avait donc consulté le docteur Freud. Un rendez-vous hebdomadaire au 19 Bergasse, qui n'avait guère amélioré les choses au demeurant. Julius se tenait sur ses gardes en permanence. Quand il entendait sa femme jouer le lead numéro 4, le chant pour des enfants morts de malheur, ce n'était pas bon signe, et pire encore quand Anna le chantait. Puis venait un jour de sourire. Leur vie s'écrivait ainsi, des bas, des hauts et encore des bas. Jusqu'au jour où un nouveau bébé s'était annoncé. Anna avait retrouvé sa joie de vivre en cultivant le frêle espoir de donner un autre enfant à son mari. Jamais grossesse n'avait été autant couvée. Jamais épouse n'avait été autant choyée qu'Anna Kahn durant toute cette période. Elle ne voulait pas que Julius voie son corps déformé une nouvelle fois. Elle n'était plus si jeune. La mort dans l'âme, Julius avait fait aménager une chambre face à la leur sous les directives de sa femme. Un immense lit, des fauteuils aux courbes gracieuses revêtus de velours bleu roi, un guéridon, un piano droit et son banc, un secrétaire et une large armoire, près des hautes fenêtres aux rideaux bleu clair, une méridienne pour la lecture, le tout en bois blond. Anna aurait pu y tenir un siège. Il ne serait pas si loin, disait-elle, juste un couloir entre eux. Elle avait renouvelé sa garde-robe avec des tenues fluides et inventives qui masquaient ses rondeurs. Elle avait modifié son alimentation jusqu'à devenir presque végétarienne, prenant la viande en dégoût. Elle avait renoncé à toute vie sociale dès que son état était devenu évident. Tout ce qu'elle désirait. Julius ne voulait la contrarier sous aucun prétexte. La maison était retournée au silence. Théophila se dirigea à pas de loup vers le salon. Elle frappa à la porte, un coup discret, l'entrouvrit, puis risqua une tête à l'intérieur. « Monsieur a-t-il besoin ?»« Monsieur n'avait besoin de rien. » Allongé sur la méridienne, monsieur dormait du sommeil du juste, une revue ouverte sur les genoux. Un sourire béat flottait sous sa moustache.